Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en français avec la collaboration du journaliste Jean-Michel Karadec, Le silence des autres est un témoignage autobiographique de Lydia Guardo. L'ouvrage rapporte les violences sexuelles, physiques et psychologiques qu'elle affirme avoir subies pendant 28 ans de la part de son beau-père, Raymond Guardo, ainsi que les conséquences de cet enfermement sur sa vie et sur ses enfants. Ce n'est donc ni un roman criminel, ni une enquête détachée. Le livre adopte le point de vue d'une survivante qui cherche à faire reconnaître une expérience longtemps ignorée. Son sujet central dépasse le seul huis clos familial. Le titre désigne l'inaction ou l'aveuglement de l'entourage, des voisins et de plusieurs institutions auxquelles Lydia Guardo dit avoir tenté de s'adresser. Le livre a ainsi une double finalité: rendre compte d'un parcours de survie et mettre en cause les mécanismes sociaux qui permettent à des violences intrafamiliales de perdurer. Sa lecture implique un contenu extrêmement éprouvant. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un témoignage de survie plutôt qu'un récit de faits divers, Le silence des autres se distingue d'abord par son statut de témoignage. Lydia Guardo ne présente pas la violence comme un événement exceptionnel à observer de l'extérieur, mais comme une réalité qui a structuré son enfance, son adolescence et une grande partie de son âge adulte. Le livre restitue l'effet cumulatif des sévices, la peur, la dépendance imposée, l'isolement et la difficulté à faire reconnaître sa parole. Cette durée est essentielle à la compréhension du texte. Elle empêche de réduire la situation à une série d'agressions séparées et montre comment l'auteur décrit un système de domination installé dans le quotidien. La collaboration avec Jean-Michel Karadec donne une forme lisible à cette parole sans transformer l'expérience en fiction à suspense. L'intérêt du récit tient donc moins à la reconstitution sensationnaliste des violences qu'à la possibilité, pour une victime, de nommer ce qui a été dissimulé ou minimisé. Le lecteur est confronté à une question concrète: comment une personne peut-elle être privée, sur une si longue période, des conditions matérielles et psychologiques nécessaires pour fuir, être cru et reconstruire une existence autonome. Cette perspective fait du livre un document humain et social, tout en exigeant une lecture prudente face à la violence explicite de son contenu. Deuxièmement, l'enfermement comme outil de contrôle total, l'ouvrage montre que l'enfermement ne se limite pas à un lieu physique. Lydia Guardo rapporte avoir été régulièrement isolée, notamment dans un grenier, mais le contrôle exercé sur elle prend aussi des formes familiales, économiques et symboliques. L'agresseur impose sa version des faits, dégrade son image auprès des autres et restreint sa capacité à être entendu comme une personne crédible. Cette combinaison est importante, une porte verrouillée peut être visible, tandis que l'emprise qui fait douter la victime l'empêche d'anticiper une aide efficace ou expose ses tentatives de fuite à un retour forcé l'est beaucoup moins. Le texte permet ainsi de comprendre pourquoi l'injonction simpliste à partir ne rend pas compte de la réalité des violences prolongées. La présence d'enfants nés des viols accroît encore cette contrainte, en reliant la violence sexuelle à des responsabilités parentales, administratives et matérielles, dont l'auteur ne maîtrise pas librement les conditions. Le livre ne propose pas un modèle théorique de l'emprise. Il en donne plutôt une illustration vécue. Son apport est de faire percevoir que la captivité peut durer lorsque la violence directe est soutenue par l'isolement, la confiscation de la parole et l'absence d'alternatives protectrices réellement accessibles. Troisièmement, le silence collectif et les défaillances des institutions de protection. Le thème le plus accusateur du livre est annoncé par son titre. Lydia Guardo décrit non seulement un agresseur, mais aussi un environnement qui n'a pas interrompu la violence. Son récit met en cause l'indifférence supposée de personnes proches et l'inefficacité des interlocuteurs institutionnels, forces de l'ordre, services sociaux, soignants ou autorités, auxquels des signaux auraient été adressés. Il faut lire cette dimension comme la parole d'une survivante sur les défaillances de protection, et non comme l'affirmation que tous les individus disposaient des mêmes informations ou capacités d'agir. Néanmoins, le livre pose avec force le problème de l'accumulation des indices blessures, fugue, isolement. Grossesse et demande d'aide ne prennent leur sens que si des professionnels les relient et déclenchent une réponse adaptée. Il interroge également les effets d'un préjugé social lorsqu'une victime est décrite comme instable, marginale ou peu fiable. Sa parole peut être écartée avant même d'être examinée. Cette analyse donne au témoignage une portée civique. Il invite à considérer la protection de l'enfance et des victimes non comme une simple affaire de compassion individuelle, mais comme une chaîne de responsabilité où chaque rupture peut prolonger le danger. Quatrièmement, l'inceste, les maternités forcées et la dépossession de la parole. Le livre aborde l'inceste non comme un tabou abstrait, mais par ses conséquences concrètes sur le corps, la filiation et l'identité. Lydia Guardo affirme avoir donné naissance à 6 enfants issus des viols commis par son beau-père. Cette réalité fait voler en éclats les catégories ordinaires de la famille. L'agresseur occupe une position parentale tout en imposant une relation sexuelle et en contrôlant les récits présentés à l'extérieur. La violence ne s'arrête donc pas à l'acte criminel. Elle affecte durablement les liens de parenté, le regard social porté sur la mère et les droits des enfants à une histoire compréhensible. Le témoignage souligne aussi le rôle de la honte, non comme un sentiment inhérent à la victime, mais comme un effet de la domination et du secret. En attribuant à Lydia Guardo une réputation dévalorisante, son entourage familial aurait contribué à rendre sa parole moins audible. Cette stratégie est centrale dans les situations d'inceste, l'autorité de l'adulte, la dépendance de l'enfant et le huis clos familial brouillent les repères des tiers, sans prétendre traiter toutes les configurations d'inceste. L'ouvrage rend visible la manière dont le secret familial peut protéger l'auteur des violences tout en isolant celle qui les subit. En dernier lieu, prendre la parole après la mort de l'agresseur, reconnaissance et limite de la réparation. La prise de parole de Lydia Guardo intervient après la mort de son beau-père en 1999 et dans un contexte où l'affaire Fritzl, rendue publique en 2008, a remis au premier plan la question de la captivité incestueuse. Le rapprochement ne sert pas à confondre deux histoires, mais à expliquer comment la médiatisation d'un cas comparable peut offrir des mots et une occasion de témoigner à d'autres survivantes. Dans le silence des autres, parler ne signifie pas effacer le passé ni obtenir automatiquement justice. Le récit met plutôt en évidence l'écart entre la révélation publique, la reconnaissance institutionnelle et la réparation intime. Des indemnisations ont été accordées ultérieurement à Lydia Guardo pour des défaillances de l'État. Mais aucune compensation financière ne peut annuler des décennies de violence ni résoudre les effets relationnels, corporels et sociaux du traumatisme. Cette limite donne au livre sa tonalité particulière, il ne promet pas une guérison simple par le témoignage. Sa force réside dans l'affirmation qu'une parole longtemps étouffée peut néanmoins modifier le statut d'une expérience, la faire passer du secret imposé à une question publique. Pour les lecteurs, cette distinction aide à penser la justice au-delà d'un verdict ou d'une somme reconnaître, écouter et prévenir constituent aussi des enjeux essentiels. En conclusion, Le silence des autres s'adresse d'abord aux lecteurs capables d'aborder un témoignage de violence incestueuse et de maltraitance prolongée sans attendre une lecture confortable. Il peut intéresser les personnes qui souhaitent comprendre, à partir d'un récit individuel, les obstacles concrets à la révélation des violences intrafamiliales: emprise, isolement, discrédit de la victime et défaut de coordination des protections. Il offre aussi un matériau de réflexion utile aux professionnels et étudiants des champs sociaux, éducatifs, médical ou judiciaire, à condition de le lire comme une parole de survivante et non comme un manuel clinique ou juridique. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer l'attention du seul agresseur vers les conditions qui rendent possible la durée de la violence. Là où de nombreux récits autobiographiques se concentrent avant tout sur la fuite ou la reconstruction, celui-ci insiste sur le poids du silence environnant et sur l'insuffisance des réponses reçues. Cette orientation explique la portée du titre et distingue l'ouvrage dans la littérature testimoniale sur l'inceste. La collaboration journalistique apporte une mise en forme qui cherche à rendre le parcours intelligible sans lui retirer sa gravité. Le livre n'est pas approprié à tous les publics, notamment aux lecteurs vulnérables face aux descriptions de viols, de tortures et de violences envers les enfants. Pour ceux qui choisissent de le lire, il ne fournit pas de résolution rassurante. Il rend plus visible la nécessité d'écouter les alertes, d'évaluer les signaux dans leur ensemble et de ne pas confondre silence social et absence de danger. Si vous souhaitez soutenir Lydia Guardo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.